Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Regagner des libertés sur la téléphonie mobile. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Jean-Christophe Becquet sur Open Insuline, ouvrir la science pour sauver des vies, et aussi la chronique d'Antanac qui nous parlera d'écrasement de données sur les disques durs. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 12 octobre 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabella. Bonjour Isabella.
Bonjour.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Avant le premier sujet, nous allons vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai la réponse au cours d'émission, mais vous pouvez proposer des réponses soit sur le salon web de la radio, je rappelle, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou via les réseaux sociaux que nous fréquentons. Donc la question est... Quel est le nom de la personne considérée comme ayant écrit le premier programme informatique? Et tout de suite, on va passer au premier sujet. Texte, image, vidéo ou base de données, sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile, Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Je suis un peu troublé parce que Jean-Christophe nous fait le plaisir d'être avec nous au studio aujourd'hui. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et en effet, je suis ravi d'être aujourd'hui en présentiel au studio de Cause Commune parce que cette émission Libre à vous, c'est un projet important pour l'April. Et donc, ça me fait une grosse émotion d'être présent aujourd'hui au micro, au studio, plutôt que par téléphone ou outil à distance comme c'est le cas d'habitude. On aborde souvent des questions importantes dans Libre à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet vital. Le projet Open Insuline. L'insuline est une hormone sécrétée par les cellules bêta du pancréas. L'évocation des îlots de Langerhans ravivera peut-être vos souvenirs des cours de SVT, sciences de vie et de la terre, biologie, ou sciences naturelles selon la génération à laquelle vous appartenez. L'insuline joue un rôle important dans le maintien du taux de glycémie. Lorsque le taux de glucose dans le sang augmente, de l'insuline est libérée. L'hormone joue le rôle d'un messager qui commande aux cellules du corps d'absorber le glucose, abaissant ainsi son niveau dans le sang. Le diabète de type 1 est un trouble de la sécrétion d'insuline. Les personnes atteintes de cette maladie, le plus souvent des enfants ou des jeunes adultes, doivent contrôler régulièrement le taux de glucose dans leur sang. Mis à part une bonne hygiène de vie, alimentation équilibrée, activité physique, l'ingestion régulière d'insuline constitue le seul traitement à ce jour pour réguler leur glycémie. Frédéric Banting et John MacLeod sont connus pour la découverte de l'insuline qui leur vaudra le prix Nobel de physiologie ou médecine. Le 23 janvier 2023, ils cèdent leurs droits à l'Université de Toronto pour le montant symbolique d'un dollar. Dans une déclaration au comité de l'insuline, John MacLeod explique que l'invention sera déposée au nom de l'université dans le seul but d'éviter qu'un industriel ne se l'approprie et restreigne la production d'insuline. Il argumente qu'il serait contraire aux principes traditionnels et aux codes éthiques de la médecine de tirer profit de la fourniture d'une substance pouvant être utilisée pour soulager la souffrance humaine. Pourtant, aujourd'hui, les méthodes de synthèse d'insuline utilisées par l'industrie pharmaceutique tombent sous le coup de brevets, renouvelés à chaque évolution dans le processus de production. Les prix de vente s'enflamment, notamment aux États-Unis. Ainsi, en 1996, un flacon d'insuline Humalog coûtait 21 $. Aujourd'hui, le même produit est vendu 324 $, bien que le coût de production soit resté stable autour de 5 à 6 $. Et 100 ans après les premières préparations administrées avec succès à des sujets humains, il n'existe toujours pas d'insuline générique. C'est pourquoi Anthony Di Franco, ingénieur informatique, diabétique de type 1, cherche à mettre au point un protocole simple et économique de production d'insuline et à le partager de manière ouverte. Son projet, Open Insuline, vise à permettre aux producteurs de médicaments génériques de fabriquer de l'insuline à coût abordable et sans enfreindre de brevet. Il estime être sur le point d'y parvenir. Son équipe est désormais capable de cultiver les micro-organismes nécessaires à la fabrication de l'insuline. Il travaille à présent à la mise au point d'un équipement permettant de la purifier. Le projet Open Insuline est hébergé au Counter Culture Labs, un laboratoire ouvert de microbiologie situé à Oakland, en Californie. Le lieu est géré par une communauté animée par le partage des savoirs. Leur but est de démystifier et démocratiser ces technologies, au vu de l'impact qu'elles peuvent avoir sur nos vies. Les membres du projet se désignent comme des biohackers. Je n'ai pas trouvé de source sur la manière dont ils prévoient d'assurer la libre diffusion de leur travail. Mais les licences que nous évoquons régulièrement dans cette chronique Pépite Libre, telles que la GNU/FDL, Free Documentation License, ou la Creative Commons by, ou by SA, me semblerait convenir, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une recette de fabrication. On peut évoquer, dans le même domaine, le projet OpenAPS, Open Artificial Pancreas System, un pancréas artificiel, développé sous licence libre MIT. Il s'agit d'un appareil qui régule en temps réel l'administration d'insuline en fonction du taux de glucose mesuré dans le sang. S'agissant de dispositifs médicaux, se posent bien entendu des questions d'agrément par les autorités sanitaires et de sécurité, mais on sait depuis bien longtemps, avec l'expérience du logiciel libre, que la fermeture et le secret ne constituent en aucun cas un gage de sécurité. Ces projets, dont l'objectif est rien moins que de sauver des vies, illustrent l'importance que les projets de la recherche scientifique soient partagés de manière libre et ouverte. C'est un prérequis insuffisant mais nécessaire pour garantir à tous l'accès aux soins.
Merci Jean-Christophe, on va indiquer le site web du projet, c'est openinsuline.org, donc insuline en anglais, hein, I-N-S-U-L-I-N, mais vous retrouverez toutes les références sur la page de l'April, april.org ou sur causecommune.fm, et même sur le site qui est en cours d'ouverture, consacré à l'émission libreavoue.org, sur lequel il y a un accès direct au webchat et au lecteur audio. Bah écoute Jean-Christophe, j'espère qu'une prochaine chronique nous aura à nouveau le plaisir de t'avoir au studio, et ce coup-ci moins pressé parce que tu as un train à prendre pour repartir chez toi.
Absolument, je rentre à Grenoble tout de suite, mais maintenant que je suis à Grenoble et plus à Digne-les-Bains, ce sera plus facile de vous rejoindre en train pour voir les collègues de l'April et intervenir en direct depuis le studio dans l'émission. Bonne fin d'émission et au mois prochain.
Ben écoute, au mois prochain Jean-Christophe, nous allons faire une pause musicale. Alors après la pause musicale, nous parlerons de téléphonie mobile et de liberté. Le titre que nous allons écouter est une pépite trouvée sur auboutdufil.com. Un titre tout en délicatesse, onirique et relaxant. Le titre du morceau, le mot Gaïa, vient du grec et il signifie terre. Gaïa est une musique douce et calme qui renvoie à l'idée de méditation, d'unité avec la planète Terre et de contemplation de sa beauté. C'est un extrait de la présentation sur auboutdufil.com. Nous allons donc écouter Gaïa par Nova Moma. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
venons d'écouter Gaïa par Nova Noma, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY, une licence qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur la téléphonie mobile et les libertés informatiques, avec nos invités Agnès Crépet de Fairphone. Agnès est responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle, nous expliquera ça tout à l'heure, et Gaël Duval, fondateur de E ou I. On verra comment ça se prononce et nous expliquera ça évidemment en détail. N'hésitez pas à participer à notre conversation, par exemple sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon. Libre à vous. Alors on va vérifier que nos deux invités sont avec nous à distance, parce qu'ils interviennent via l'outil d'audioconférence libre Mumble. Donc Agnès, est-ce que tu es avec nous ? Gaël, est-ce que tu es avec nous ?
Je suis avec vous,
oui.
Je vous entends.
Ok, super, très bien. Alors on va commencer par une petite présentation personnelle rapide de chacun et chacune de vous. On va commencer par Agnès Crépet.
Oui, donc déjà merci pour l'invitation. Je suis très honorée de participer à votre émission, que j'ai écouté quelques fois en mode podcast. Donc oui, je m'appelle Agnès, je travaille chez Fairphone depuis un peu plus de 3 ans. Moi je suis ingénieure, j'étais plutôt développeuse de backends, mais depuis que je suis chez Fairphone, je bosse plus sur la stack Android. Et donc chez Fairphone, je m'occupe à la fois de la partie IT très classique, donc de développement qu'on peut retrouver dans n'importe quelle entreprise, logistique, etc. Mais aussi du département longévité logicielle, donc comment faire des mises à jour logicielles dans le temps sur un produit qui n'a plus 2 ou 3 ans, mais plutôt 5, 6, 7 ans. Donc c'est pour ça que mon titre, c'est en charge de la longévité logicielle. Voilà.
D'accord. Merci Agnès. On précise que IT, c'est, en gros, c'est l'informatique. Je sais que tu as plus l'habitude d'intervenir en anglais, mais on va préciser les termes techniques s'il y a besoin. Et donc maintenant, Gaël Duval, une petite présentation.
Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation également. Donc moi je m'appelle Gaël, je suis informaticien à la base, mais très vite je suis devenu aussi entrepreneur puisque j'étais à l'origine de la distribution Linux, Mandrake Linux à la fin des années 90. Je suis aussi un fervent partisan et supporter des logiciels libres depuis les années 90. Et plus récemment, donc il y a 3-4 ans, je me suis penché sur la question des smartphones et sur les fuites de données. Et j'ai donc lancé un projet qui s'appelle I ou E, alors selon qu'on est anglais ou français, et qui a comme objectif de fournir un système d'exploitation pour les smartphones qui soit complètement dégooglisé et beaucoup plus respectueux des données personnelles des utilisateurs.
Ben écoute, merci Gaël. Alors justement, on va commencer un petit peu par la première thématique. Hein. On va avoir 4-5 thématiques aujourd'hui. La première thématique, ben finalement, c'est un petit peu lister et puis expliquer aux gens les problèmes que vous proposez de résoudre. Et en gros, donc, quels sont les problèmes que pose la téléphonie mobile actuelle telle qu'elle est utilisée par une grande majorité des gens. Alors le premier point que vous souhaitiez aborder, qui est évidemment très important, c'est la protection des données personnelles et la protection de la vie privée. Alors peut-être que Gaël veut commencer.
Oui, alors pour faire très très rapidement, le sujet sur le smartphone, c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation où 100% du marché, quasiment 99% du marché du smartphone est dominé par deux acteurs. Donc on a Apple avec iOS d'une part et on a Google avec Android d'autre part, et globalement, à quelques nuances près, tout ceci repose sur un modèle d'affaires qui est lié à l'exploitation des données personnelles et in fine à un modèle d'affaires publicitaire. Donc on en arrive à une situation où aujourd'hui on a plusieurs milliards de personnes dans le monde qui voient leurs données personnelles captées de manière assez industrielle et systématique tous les jours et envoyées vers les serveurs de ces grosses boîtes pour justement leur permettre à la fin de pouvoir vendre de la publicité plus cher que s'ils ne le faisaient pas. Donc pour donner quelques chiffres, des études récentes ont montré que sur un smartphone qui utilise Android, on a environ, en moyenne en tout cas, 12 mégaoctets de données personnelles qui sortent de votre poche tous les jours. Donc quand on dit données personnelles, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple votre géolocalisation en temps réel, l'endroit où vous êtes, si vous êtes dans un magasin, si vous êtes chez vous, c'est vos habitudes de consommation, c'est les recherches que vous faites sur Internet. Donc tout un ensemble de choses qui leur permet de connaître à peu près tout de votre vie personnelle. Nous, on pense que ça, c'est pas acceptable, qu'il y a des enjeux énormes, il y a des impacts énormes sur nos vies, sur l'économie, sur l'emploi, et puis aussi peut-être une menace sur la démocratie. Hein. On a vu récemment qu'il y a des détournements qui sont possibles. On peut faire beaucoup de choses avec les données personnelles. On peut influencer sur les réseaux sociaux de manière pas sympathique du tout. Donc voilà, pour résumer un peu l'enjeu sur les données personnelles aujourd'hui. Et ça se passe dans le smartphone, ça se passe dans notre poche tous les jours. Et on s'en aperçoit pas tellement parce que c'est dans l'air. Hein. Il n'y a pas un fil, il n'y a pas un truc physique qui passe. Et malheureusement, on le sait pas assez. Et je pense que les gens sont pas assez informés de ces problématiques-là.
Alors justement, est-ce que il existe un site ou un moyen pour quelqu'un qui voudrait savoir en fait quelles sont les données personnelles qui sont justement partagées avec les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, enfin, tous les géants du net, et notamment les deux gros effectivement sur la téléphonie. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir un peu, alors, avec par exemple son téléphone, est-ce qu'il y a des applications ou des sites qui permettent de savoir quelles sont les données qui sont partagées quand on utilise une application? Je sais pas, Agnès ou...
Alors il faut...
Vas-y.
Ouais, je réponds très très vite, après je laisse la parole à Agnès. Ouais. Excuse-moi Agnès. Donc il faut différencier juste la partie système d'exploitation, donc qui est le moteur du téléphone, donc qui déjà par défaut, sans qu'on utilise application spécifique, envoie de la donnée en permanence, hein, et en particulier la position géographique. Et effectivement, après il y a le problème des applications. Et pour ça, nous aujourd'hui, on est en train de développer des outils qui permettent, on n'est pas les seuls, hein, mais on essaie d'intégrer dans notre système, qui permettent à la fois de détecter un certain nombre de connexions vers des serveurs de telle ou telle application. Et après, on va permettre aussi aux utilisateurs de couper au besoin ces accès s'ils souhaitent passer sous les radars.
D'accord. Agnès, est-ce que tu veux compléter sur cette partie?
Oui, donc c'est moi ma spécialité parce que je travaille moins là-dessus. Moi, je sais que j'avais entendu parler d'un outil qui s'appelle Pitus, qui est utilisé pour essayer de gérer justement avoir une connaissance de ces informations-là. Exodus Privacy, enfin voilà. Oui. Je sais que c'est des choses qui sont assez utilisées aujourd'hui.
Effectivement, sur le salon web, Mario Dill nous précise Exodus Privacy, qui est en fait une plateforme d'analyse des applications Android qui liste notamment les trackers. Et il me vient à l'esprit aussi qu'il y a, je crois qu'il y a une récente émission de Cache Investigation, ou je ne sais plus quelle émission, sur France 2 qui était consacrée justement à cette problématique. Pour poursuivre cette question-là, tout à l'heure, Gaël, en introduction, tu as parlé des deux grands, hein, donc qui sont Google et Apple. Est-ce que la situation est la même? Est-ce qu'elles sont similaires sur Android ou sur iOS? Parce que ce que les gens disent notamment sur iOS, c'est qu'il n'y a pas cet aspect, enfin, ou moins présent cet aspect de récupération des données personnelles.
Alors, y a un mythe autour de l'iPhone, et je pense qu'il est entretenu d'ailleurs, hein, par Apple, qui essaie de laisser penser aux gens que avoir un iPhone, ça les protège. La réalité est tout à fait différente. Hein. Aujourd'hui, j'ai parlé de 12 mégaoctets de données personnelles sur un Android. Sur un iPhone, c'est pas zéro. C'est moins, certes, c'est un peu moins, c'est la moitié moins. C'est 6 mégaoctets de données personnelles, mais c'est quand même colossal. Et il y a quelque chose qui est pas très connu, mais c'est que Google paye un gros chèque à Apple pour que Google soit le moteur de recherche par défaut sur les téléphones, sur les iPhones. Quand je dis un gros chèque, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars par an quand même. Hein. Donc au final, voilà, Apple est aussi partie prenante de tout ce système de captation des données personnelles. Il y a pas vraiment de doute là-dessus. Et c'est vraiment un souci. Après, on ne sait pas vraiment non plus ce que fait Apple de vos données personnelles. Aujourd'hui, Apple, c'est une boîte noire, donc ils affirment beaucoup de choses, ils font beaucoup de marketing autour de ça, mais la réalité, on ne la connaît pas, puisqu'il n'y a pas le code source, il n'y a rien du tout. Donc, on les croit ou pas, c'est une histoire de croyance, on est plus dans une histoire de religion qu'autre chose pour moi.
D'accord. Avant de poser une prochaine question, je vais juste préciser donc le cache investigation dont je parlais. Il est intitulé « Nos données personnelles valent de l'or ». Il a été diffusé en mai dernier et il est disponible en replay sur France.tv. Et je précise aux personnes qui ne veulent pas se créer de compte sur France.tv qu'a priori, avec YouTube DL, on peut le récupérer très facilement. Donc ça, c'est effectivement la partie d'autres. Oui, vas-y Agnès, oui, si tu veux
rajouter. Je voulais juste rajouter quelque chose, ouais, si c'est possible, Frédéric. Ouais. J'ai lu récemment un article que je mentionnerai dans tes release notes, que j'indiquerai, je l'ai lu il y a cette semaine, un article qui est paru justement sur la comparaison entre Apple et Android et qui montre qu'effectivement, il y a très peu de différence. Et je le mettrai dans les liens de l'émission. C'est sorti assez récemment. Un article scientifique qui a été fait par un chercheur qui s'appelle Colling et une autre suite de personnes. Voilà, je vous l'indiquerai dans les notes.
D'accord, super, merci Agnès. Avant de passer à la partie finalement, non, je poserai mes questions après la partie impact environnemental. Donc là, on a parlé du premier problème qui existe en tout cas avec la téléphonie mobile actuelle, qui est donc la partie données personnelles, protection de la vie privée. D'ailleurs, en préparant l'émission, Gaël, tu voulais faire une différence entre protection de la vie privée et sécurité. Alors, c'est peut-être l'occasion de la faire.
Oui, alors c'est parce qu'il y a souvent une confusion dans les médias et chez certaines personnes entre la sécurité et la confidentialité des données personnelles. Comme si avoir un téléphone ou un système d'exploitation extrêmement sûr, extrêmement robuste au niveau de la sécurité, ça offrait des garanties sur la protection des données personnelles. La réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... Comment dire, la sécurité, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. On peut très avoir un téléphone très très sécurisé qui va de manière très très sécurisée envoyer toutes vos infos chez Google. Et d'ailleurs, Google aujourd'hui essaie de développer un discours marketing justement autour de la sécurité. Vous allez pouvoir acheminer de manière très sécurisée vos données personnelles chez nous. Nous, on n'est pas du tout sur cet axe-là, quoi. On préfère avoir à la limite un système qui va être d'une sécurité classique du marché état de l'art. Par contre, on fait un très très gros effort derrière pour voir ce qui envoie des données personnelles chez tel ou tel acteur et de pouvoir résoudre ces cas-là. Mais ouais, je tiens à préciser que sécurité et protection des données personnelles, c'est deux sujets qui sont connectés mais qui sont pas forcément identiques.
D'accord. Donc ça, c'est le premier, on va dire, problème posé par la téléphonie, données personnelles, protection de la vie privée. Et puis évidemment, téléphone, ça veut dire aussi au-delà des logiciels, ça veut dire aussi du matériel, des métaux rares, plein de choses, des gens pour construire ces matériels, qu'on tente de nous forcer de racheter régulièrement à des prix incroyables. Donc la question de l'impact environnemental, développement durable, là, je dirais qu'au niveau du Fairphone, vous êtes un petit peu sur ces questions-là notamment. Donc Agnès, quels sont les problèmes posés sur ces domaines-là par la téléphonie mobile actuelle?
Oui, donc comme tu l'as dit Frédéric, il y a vraiment cette première aspect des métaux. Qu'est-ce qu'on inclut comme métaux? La plupart des métaux posent beaucoup de problèmes et environnementaux et sociaux. Donc environnemental parce que ça crée énormément de pollution, même si c'est pas chez nous, bien souvent, parce qu'on a plus de mines beaucoup dans les pays européens ou aux États-Unis, etc. En tout cas, plus beaucoup par rapport à il y a 100 ans. Mais aussi beaucoup de problèmes sociétaux parce qu'on retrouve beaucoup d'enfants dans les mines et beaucoup de financement des conflits armés. Donc le projet de Fairphone, initialement, c'était vraiment de lutter contre les minerais dits de conflit, que sont l'étain, l'or, le tungstène et le tantal. Donc essayer de soit chercher des alternatives à ces métaux. Le tantal, c'est ce qu'on a fait avec le Fairphone 3, on a essayé d'enlever le tantal. Mais aussi, quand on doit les utiliser comme l'or, faire en sorte d'utiliser des mines fair trade, comme le chocolat, mais pour les mines, pour garantir à la fois des bonnes conditions pour les gens, et child-free, conflict-free minéraux, donc éviter respectivement le travail des enfants, essayer d'éviter le travail des enfants et d'éviter les financements des conflits armés. C'est des choses dont on entend parler, mais c'est vrai que pragmatiquement parlant, il n'y a pas beaucoup de choses qui se font sur le terrain. En tout cas, il y a 10 ans, il n'y avait quasi rien, et aujourd'hui, il y a quelques initiatives que je trouve intéressantes. En août dernier, la Fair Cobalt Alliance, l'Alliance de Cobalt Équitable, qui est un consortium de plein d'entreprises, d'ONG qui s'est monté et qui est vraiment arrivé à... L'objectif, c'est d'arriver à financer justement à aider des mines fair trade.
Je précise que fair trade, c'est commerce équitable.
Commerce équitable, ouais. Et dedans, il y a plein de boîtes qui ont rejoint le truc, donc comme Tesla, Volvo, etc. Il y a des gens qui peuvent dire, ouais, ça fait pas rêver que des gros trucs rejoignent des initiatives comme ça. En même temps, Tesla et Volvo, ils achètent 10 fois plus de cobalt que Fairphone. Donc, si, en termes de volume, heureusement qu'il y a des boîtes automobiles qui rejoignent ce genre d'initiatives. Et c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le volume. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur place, Fairphone, ça bosse depuis des années au Congo, par exemple. Et quand vous arrivez sur place en me disant « ouais, ça serait super cool de lancer une mine de commerce équitable autour du cobalt », les gens sur place vont vous dire « ouais, mais bon, t'en achètes combien, quoi ? Est-ce que t'en achètes 10 kilos par mois ou 3 tonnes ?» Donc, voilà, tout démarre de l'extraction des minerais et c'est jamais vraiment évident c'est vraiment un combat pas évident. Je dis souvent qu'à Fairphone, les vrais héros et héroïnes, c'est vraiment celles et ceux qui bossent sur ces problématiques de minerais. Parce qu'on est vraiment face à des gouvernements corrompus, à des entreprises qui se cachent un peu les yeux. Le marché noir, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de mines industrielles qui embauchent beaucoup de mineurs artisanaux, donc des familles de mineurs, hein, enfants compris, sans que ça se sache. Enfin, voilà, énormément de problèmes sociétaux et environnementaux. Donc, le nerf de la guerre, c'est d'arriver à faire des solutions qui durent. Pour éviter d'avoir trop de téléphones sur le marché. Aujourd'hui, la durée de vie d'un téléphone, c'est à peu près 2 ans, ce qui est quand même pas terrible. Et si on revient sur la partie software, logiciel, qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, il y a un rapport, j'arrive plus à parler français, j'allais dire report, mais non, je me force, désolée. Donc il y a un rapport européen qui est sorti, la Commission européenne qui est sortie l'année dernière et qui montre que dans 20% des cas, les gens changent leur téléphone alors que leur appareil matériellement est absolument parfait, donc à cause d'un problème software. Ce qui est beaucoup, hein. C'est-à-dire que vous cassez votre téléphone, l'écran est cassé, bon, c'est une chose, ce serait bien de pouvoir le réparer, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Fairphone. Mais imaginez que votre téléphone va très bien, il n'y a aucun problème matériel. Quand il y a un problème software, bah, les gens sont bloqués. Si jamais vous êtes fan de TikTok et vous ne pouvez pas utiliser TikTok, je fais exprès de prendre cet exemple, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de fans de TikTok ici. Mais voilà, vous prenez une personne qui est fan d'une app qui ne tourne plus aujourd'hui sur le téléphone, la personne va arrêter d'utiliser son téléphone. Donc le problème software, enfin logiciel est quand même vachement important. Ça, c'est le boulot par exemple que je fais à Fairphone, on en parlera plus tard. Ouais. Donc, il faut vraiment arriver à faire des téléphones qui durent. Et pour que le téléphone dure, il faut qu'il soit irréparable et qu'il ait un support logiciel long terme. Donc, des solutions comme i, c'est aussi super pour ça, parce que Lineage i, beaucoup de solutions open source permettent à des utilisatrices, utilisateurs de pouvoir garder leur téléphone longtemps. Là-dessus, Fairphone fait... rien de complètement exotique, si ce n'est de pousser des versions Android qui durent longtemps, quoi. Voilà.
D'accord. En préparant l'émission, tu m'as parlé aussi, on parlait des poids des monopoles, donc on a parlé tout à l'heure de Google et Apple. Toi, tu voulais parler peut-être des fabricants de puces. Donc très rapidement, c'est quoi la problématique des fabricants de puces informatiques ?
Donc, comme je viens juste de dire que la transition était bonne, je viens juste de dire, on ne fait rien d'exceptionnel, si ce n'est de faire des mises à jour d'Android dans le temps, faire ces mises à jour d'Android, c'est super dur à cause des monopoles que sont les fabricants de puces et Google, donc Google pour Android, et les fabricants de puces, nous on travaille avec Qualcomm, mais ça pourrait être aussi MediaTek. En fait, on est entre deux chaises, et les deux chaises font rien pour faire de la longévité logicielle, pour faire durer les produits dans le temps. Donc Qualcomm, qu'est-ce qui se passe avec Qualcomm, par exemple? Et pareil, encore une fois, c'est pas les seuls. Samsung et MediaTek font pareil. Donc, vous achetez une puce en tant que fabricant de téléphone, vous la mettez dans votre téléphone. D'une, vous avez une opacité complète sur le modèle de licence. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté la puce, vous payez une licence et vous ne savez pas exactement combien de temps le support va exister. Ça peut être une ou deux ou trois versions d'Android. Une, ce n'est pas vrai, c'est plutôt deux ou trois. Mais le fabricant de puce peut tout à coup décider de dropper, d'arrêter le support. Ce qui pour vous est problématique, parce que si le fabricant de puces ne fournit pas les briques logicielles nécessaires aux nouvelles mises à jour de sécurité de votre OS Android, par exemple, et ça va être problématique, ça vous pourrez plus facilement faire ces mises à jour sécurité logicielle. Donc vous allez être bloqué sur, par exemple, Android 6 ou 7. Et de l'autre côté, Google, qui est derrière Android, va vous dire « Oui, mais bon, moi, Android 6 ou 7, j'arrête de le maintenir, quoi. Ma version... Android 8, je vais la garder 3 ans, je vais fournir des mises à jour sécurité pour 3 ans et après j'arrête. » Donc vous avez d'un côté Google qui pousse à se mettre à jour vers des nouvelles versions d'Android et Qualcomm qui de l'autre côté dit « Ouais, mais moi, les nouvelles versions d'Android pour des puces qui ont 5 ans, je ne les supporte plus. » Je donne l'exemple de Fairphone 2 qui est un téléphone qui est sorti en 2015, fin 2015. Aujourd'hui, Qualcomm est plus impliqué dans la mise à jour des briques logicielles nécessaires depuis 3 ans. Donc depuis 3 ans, les mises à jour qu'on fait, c'est sans eux. Et ça, c'est compliqué. Donc, oui, pourquoi je parlais des monopoles ? Parce que c'est... quand vous voulez faire en sorte de faire des mises à jour logicielles dans le temps, vous devez faire face à ces monopoles-là. Et du côté de Google, ce qui est compliqué, je crois qu'il y a une des questions, Frédéric, que tu voulais me poser sur qu'est-ce que vous faites chez Fairphone. Est-ce que vous livrez une version d'Android avec les
Google Apps ? Oui, c'est dans la partie d'après, ouais.
Eh bien oui, je t'en parlerai plus, mais oui, je t'expliquerai pourquoi on fait ça, parce qu'on on a un Android certifié, enfin bon bref. Et donc, pour ce faire, tu passes une Google certification, une certification Android, et il y a eu 477 000 tests à passer, et si t'en rates un, tu échoues la certification Android. Donc ça veut dire que Google te donne pas ta certification, tu peux pas livrer ton Android à tes utilisateurs. Donc, pour chaque exception, admettons qu'à la fin d'un an de travail où tu as essayé de d'implémenter Android 10 sur ton téléphone, qui a 5 ans là, si tu as 10 tests qui marchent pas sur 477 000, tu pourrais dire « Ah, c'est pas grave, c'est rien par rapport à la totale », mais non, si c'est quelque chose pour chaque test, tu dois faire un processus d'exception auprès de Google et ça dure parfois des mois avant que Google te donne la validation du truc. Donc, c'est beaucoup d'échanges techniques. On parle de dossiers techniques. Et on a beau faire notre pitch Fairphone, si tu veux, on est loin de... on est loin, je dis pas qu'ils s'en foutent, mais je veux dire, on est loin de ça, quoi. Eux, ils veulent, Bluetooth marche pas. Tu te débrouilles, il faut qu'il marche, quoi.
D'accord.
Donc, c'est ça, c'est en ce sens que je veux dire que ces monopoles-là font absolument rien pour faire en sorte que les produits, les devices sur le marché, les téléphones sur le marché durent. Voilà.
Ok, d'accord. Donc là, on a bien compris les principaux problèmes. On pourrait faire évidemment des heures là-dessus. On va passer, mais le temps passe très vite, à la radio. On va passer à vos propositions de solutions, donc de solutions qui durent, pour reprendre l'expression que tu as employée, Agnès, hein, donc notamment sur l'évolution logicielle, logiciel libre, réparabilité. On va commencer peut-être par Gaël, qui donc est le fondateur de i. Alors, tu as expliqué un petit peu tout à l'heure d'où venait cette idée. Et donc, en fait, bon, qu'est-ce que c'est que I ou E, en fonction de la façon dont on le prononce ?
Alors, I ou E, comme on veut, ou dans d'autres pays, ils ont d'autres prononciations aussi, mais peu importe. On aura un nouveau nom, hein, vraisemblablement, petite parenthèse. Donc, nous, on reprend la base d'Android parce que il faut savoir que Android, à la base, c'est un logiciel libre, hein, qui a été racheté, plus ou moins absorbé par Google, mais cela dit, tout le cœur du système, hein, reste libre, donc on a le droit de le forquer, comme on dit, de le dériver, pour en faire un autre système d'exploitation. D'ailleurs, au cœur de l'Android, il y a le noyau Linux qui tourne, hein, qui est un logiciel libre. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui nous permet, nous, de faire des modifs, tout simplement, dedans, de la manière la plus légale possible. Et donc, on commence par lister tout ce qui envoie. Donc, on repère les traces qui passent sur le réseau de ce qui est envoyé comme données personnelles. Par exemple, les appels sur la géolocalisation, tout ce qui peut être lié au DNS, donc la recherche des noms de domaine, c'est un peu technique, mais ou le fait que quand on démarre un téléphone, il y a une requête réseau qui va directement sur les serveurs Google, qui informe Google que le smartphone il vient de démarrer, et tout ça on le repère et on le modifie, c'est-à-dire que on coupe tout simplement et on remplace avec soit nos propres services, soit des services équivalents. Typiquement pour la géolocalisation, on utilise un service de Mozilla qui permet d'affiner la géolocalisation quand on n'est pas à l'extérieur. Et puis on remplace toutes les applications par défaut qui pourraient potentiellement aussi envoyer des données chez Google, et on les remplace par des applications qu'on sélectionne. Parfois on les modifie, principalement pour améliorer un petit peu leur interface utilisateur, leur ergonomie, quand on pense qu'elle n'est pas d'un niveau acceptable pour quelqu'un qui ne connaît rien, qui a l'habitude d'un produit tout fini. Et puis on a aussi toute la partie applicative, donc on reste compatible avec les applications mobiles existantes. Donc on peut très bien utiliser, alors je ne le recommande pas, mais on peut très bien utiliser Facebook sur iOS, ça marche très bien. Moi je ne le fais pas, hein, je pense que voilà, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont un petit peu plus vertueux, mais grosso modo on peut utiliser toutes les applications qu'on connaît, dont on a l'habitude d'utiliser. On peut les utiliser sur iOS. Donc on offre un truc tout intégré en fait qui permet d'avoir une vie numérique normale, je veux dire, sans avoir besoin de bidouiller ou sans avoir besoin non plus de renoncer à certains usages, mais d'une manière beaucoup plus vertueuse et aussi de manière plus informée. Par exemple, dans notre store d'applicatifs, chaque application, on leur donne une note de, on va dire, qualité de la vie privée. Alors, on appelle ça privacy en anglais, qui est un truc un petit peu arbitraire, mais qui donne une idée déjà de ce qu'il y a dans l'application. Et typiquement, on regarde le nombre de trackers qu'il y a dans l'application. Donc les trackers, c'est comme les cookies, mais pour les applications. Ça informe plein d'autres boîtes que par exemple, si vous utilisez l'application du Nouvel Ops ou Le Monde, en fait, vous pensez que vous envoyez des données éventuellement chez Le Monde de Nouvel Ops. Bah oui, mais aussi à 25 autres boîtes, des régies publicitaires, des boîtes qui font d'analyse de données, etc. Donc tout ça, on est un peu, on combat tous ces transferts de données là qui nous semblent pas utiles et pas opportuns. Et donc on va donner ces notes de privacy, de protection de la vie privée. Et pour ça d'ailleurs, on utilise l'outil sur la partie tracker, on utilise l'outil de Cassie Tanias, Exodus Privacy, qui est très bien, qui est un outil libre développé à l'origine en France d'ailleurs. Et on fournit un système d'exploitation le plus simple possible à utiliser, quelque chose que n'importe qui peut utiliser en très peu de temps, sans apprentissage spécifique, sans avoir besoin de faire des réglages spécifiques, et qui offre déjà un minimum de garantie sur la protection de la vie privée. Et juste petite anecdote, là il y a une étude de recherche qui vient de sortir hier d'une université à Dublin, et donc le chercheur a comparé ce qui était envoyé par défaut sur différents smartphones, donc de chez Huawei, Xiaomi, Samsung et iOS, et dans tous ceux qu'il a testé, le seul OS à ne pas envoyer de données chez Google et chez d'autres GAFAM, c'était iOS. Donc voilà, on fait vraiment un gros boulot de nettoyage et d'intégration sur l'OS mobile, et on bosse avec des gens comme Fairphone, et c'est là que c'est intéressant aussi, parce que je te laisse peut-être.
Ouais, ben justement, en fait, parce que là, on a bien compris effectivement le but du iOS, mais si moi je me place d'un point de vue du grand public, et je sais que dans ton historique, et notamment tu as cité Mandrake, tu vises évidemment le grand public, et tu as beaucoup contribué au niveau des distributions GNU Linux à ça. La personne qui écoute là se dit, mais bon, ça a l'air bien, mais comment je l'installe ? Est-ce qu'il faut que je l'installe sur un téléphone que j'ai chez moi ? Est-ce que vous vendez des téléphones ? Est-ce qu'il faut que j'achète un Fairphone que j'installe iOS ? Comment ça se passe pour les gens qui voudraient utiliser ton système?
Alors, on propose différentes manières en fait de l'obtenir. Comme c'est un logiciel libre et que nous-mêmes on dérive d'Android, alors de LineageOS, etc., tout ce qu'on fait, toutes nos modifications, on les reverse avec les mêmes licences, et donc n'importe qui peut installer ce qu'on développe et même le modifier pour en faire. On a commencé à avoir des forks de iOS, c'est assez rigolo. Et donc chaque utilisateur peut l'installer lui-même sur un téléphone qu'il possède, un vieux téléphone par exemple. Juste pour information, et c'est marrant parce qu'Agnès parlait du support, la longévité des téléphones, et clairement nous c'est un sujet aussi qu'on a. On a constaté que sur des téléphones qui pouvaient avoir jusqu'à 8 ans, typiquement un S4 mini, il nous a un peu bluffé parce qu'on a installé iOS dessus et on a vu que le truc était totalement utilisable, quoi, alors que c'est un truc qui a 8 ans. Et donc voilà, ça pose aussi la question de faut-il en permanence racheter un nouveau téléphone. Moi je pense que la réponse c'est non. Et donc on peut l'installer soi-même. Alors c'est un peu compliqué, faut reconnaître qu'aujourd'hui le processus est pas simple, il faut connecter à son ordinateur, taper des lignes de commande. Et on a aussi, sur demande de nos utilisateurs, on a lancé des modèles préinstallés avec iOS qu'on peut acheter sur notre store, dont Fairphone, avec aujourd'hui le Fairphone 3, Fairphone 3 Plus, et je l'espère bientôt sur le Fairphone 4 qui vient de sortir. Et puis aussi avec sur des téléphones reconditionnés, on bosse avec Recommerce en France sur le reconditionné. C'est on va dire un mélange assez vertueux entre le développement durable et la protection des données personnelles, et puis aussi avec d'autres acteurs, Gigaset en Allemagne, et puis plus récemment TerraCube aux États-Unis. C'est assez rigolo d'ailleurs au passage de voir que tous ces sujets, aussi bien sur la protection des données personnelles avec le RGPD, sur le développement durable, on voit que ce sont des sujets qui sont pris à bras-le-corps par l'Europe initialement. Et puis après, ça traverse l'Atlantique et les Américains commencent à se dire « Ah oui, tiens, ce serait peut-être une bonne idée qu'on… » Et on a de plus en plus de demandes des US. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et je pense que c'est une opportunité. Et on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont liées à une informatique, une vie numérique plus vertueuse hein, d'une manière générale et liée au développement durable, qui sont surtout des initiatives européennes. Donc ça, je trouve ça aussi assez intéressant et assez excitant pour la suite.
D'accord. Alors, avant de passer la parole à Agnès sur le Fairphone et faire des allers-retours, je précise aux personnes qui posent des questions sur le salon web que je les vois, que je vais les poser aux invités, mais ce sera après la pause musicale. Donc, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Pop 3 par Labo Galac. Je vous parlerai de l'artiste juste après. On se retrouve dans 2 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Écoutez Pop 3 par Labo Galac, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Donc nous sommes de retour avec Agnès Crépet et Gaël Duval. Gaël Duval, je crois que Labo Galac, tu connais.
Ouais, j'ai trouvé ça assez amusant vu le thème de l'émission. Il se trouve que je faisais beaucoup de musique avant et que c'est moi en fait. C'est un truc que j'ai enregistré vers 2003-2004. Et c'était le titre relate un peu mes premières aventures internet des années 90. Pas mal de souvenirs et de trucs, première communauté virtuelle et tout ça. Et voilà, c'est un petit clin d'œil. Je trouvais que c'était assez, assez rigolo de vous proposer ce titre.
Alors, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, effectivement, on a toujours plaisir que l'un des invités, en fait, soit aussi artiste, libriste. D'ailleurs, j'en profite que nos pensées vont aussi aujourd'hui à Laurent Séguin, hein, qui était un libriste et qui était aussi artiste sous le nom de Cyber SDF. Et deux des jingles de l'émission, la musique, c'est Dolling de Cyber SDF. Donc, on pense bien à Laurent et à sa famille. Alors, on va poursuivre notre discussion sur téléphonie mobile et liberté informatique. Je préviens tout de suite mes deux invités que par rapport au programme qu'on avait prévu, comme il y a pas mal de questions sur Salon Web, on va un petit peu le bousculer, ou en tout cas on va prendre les questions. J'ai bien noté qu'il y avait des questions sur le modèle commercial, mais on y viendra tout à l'heure. Donc, Agnès, est-ce que tu peux nous expliquer ce que propose Fairphone en termes de matériel et aussi éventuellement de logiciel ? Et il y a une question sur le nombre de personnes chez Fairphone qui travaillent pour résoudre les soucis dont tu parlais tout à l'heure.
Ouais. Alors, dans mon équipe, on est 5 ingénieurs. Donc, c'est pas beaucoup, mais on a une boîte où on est à peu près 80. Donc, on est 5 dédiés à la longévité. Évidemment, il y en a d'autres qui travaillent sur la partie nouveaux produits, en tout cas produits toujours avec le support nécessaire de Qualcomm, comme ce dont j'expliquais tout à l'heure. De toute façon, Fairphone, voilà, c'est une petite entreprise vis-à-vis des mastodontes que sont Samsung, Apple, etc. Mais à 80, bah, voilà, c'est toujours possible de faire un téléphone différemment. L'objectif de Fairphone, c'est de toute façon pas de faire un super téléphone, c'est vraiment d'arriver à travers ce téléphone, de montrer que c'est possible et d'influencer les autres. Donc notre rêve ultime, c'est de faire en sorte qu'un jour, les autres fabricants de téléphones essaye de construire un téléphone différemment en respectant à la fois la planète et les gens qui le fabriquent. Donc ça, c'est pour répondre à la question des personnes.
Oui, tout à fait. Et donc, sinon, au niveau matériel et logiciel, qu'est-ce que propose Fairphone ?
Ouais. Alors, au niveau du matériel et logiciel, au niveau, le gros focus de Fairphone, c'est quand même la partie hardware, matériel. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on a toute une action sur les minerais, donc essayer d'extraire des minerais en... faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants, pas de fiancés dans des conflits armés, et en respectant les mineurs, donc en les payant de manière convenable. On fait la même chose sur la partie usine en Chine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 95% de la production, de l'assemblage des téléphones qui a lieu en Chine. Donc Fairphone, notre idée, ce n'est pas de se rapatrier en Europe, c'est vraiment d'être là où ça se passe mal, pour essayer d'améliorer les conditions de travail des gens. Donc ce qu'on fait différemment, c'est aussi être dans l'usine pour essayer d'être là, aider les négociations avec les salariés pour qu'ils et elles aient des meilleures conditions de travail. Donc il y a parce que la notion d'union, de syndicat en Chine n'existe pas vraiment. Je pense que c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire bah voilà le SMIC, enfin le revenu minimum en Chine, c'est 260 euros. Et après avoir beaucoup discuté avec nos employés sur la chaîne de production, la chaîne d'assemblage de téléphone, pour qu'ils et elles aient un revenu dit décent, hein, ce qu'on appelle un living wage, il et elle identifiaient qu'il fallait à peu près 653 euros. Donc entre 260 et 650, il y a un gap. Et le truc un peu drôle, enfin qui est un peu drôle, c'est très drôle, mais on l'a fait en fait, en payant convenablement les gens à ce qu'ils demandaient. Ça nous coûtait 1,85 euros par téléphone. Donc ça aussi, on a beaucoup communiqué là-dessus pour montrer que ce n'est pas une prouesse finalement, que plein d'autres peuvent le faire, et si nous on l'a fait, d'autres peuvent le faire. Donc on a tout ce travail sur le respect des gens derrière la fabrication du téléphone, sur impliqué dans la partie matérielle notamment. Et le téléphone lui-même, il a un design tout à fait spécifique puisque vous pouvez le réparer vous-même. Donc, sur le site web de Fairphone, vous pouvez acheter un écran, la batterie, les différents modules si jamais ils cassent. Il faut savoir qu'il y a des téléphones, des parties du téléphone qui cassent très peu, comme la machine à vibration, quand le téléphone vibre, et des parties du téléphone, ça je vous l'apprends pas, qui cassent beaucoup, comme un écran, etc. Et donc, ce qui casse beaucoup, on le propose en pièces détachées. Mais il ne faut pas être quelqu'un de très très technique pour pouvoir faire le changement. Donc l'objectif, c'est que mon père, ma tante puissent faire la même chose chez eux, quoi. Donc tu achètes ta pièce et tu changes ta pièce facilement. Donc il y a un design qui est fait pour être réparé. Il faut savoir que quand on a un design qui est fait pour être réparé, la recyclabilité du téléphone est aussi facilitée, puisqu'il est plus facilement démontable. Donc c'est un cercle vertueux où on essaye d'aller. Donc le design du téléphone est différent. Quand vous avez un Fairphone dans les mains, bah, vous voyez facilement, vous pouvez le démonter. Et on a évidemment tout un tas de tutoriels en ligne pour montrer aux gens comment faire ça facilement. Sur la partie logicielle, quand je dis on fait pas grand-chose d'exotique, je casse un peu mon équipe, hein, mais parce que c'est moi qui fais ça, la partie longévité. Donc on fait ces upgrades quand même logiciels Android dans le temps. Ça, personne d'autre le fait, on aimerait bien que d'autres le fassent, mais là, je parle bien d'Android. Donc là, je peux me permettre peut-être de répondre à ta question, Frédéric, de tout à l'heure, enfin que tu n'as pas vraiment posé, mais que j'ai abordé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous livrez par défaut comme système d'exploitation ? Nous, on livre un Android certifié. Donc un Android certifié, ça veut dire à l'Android qu'il possède les Google Apps, donc Gmail, Gmaps, etc. Non pas qu'on soit fan de Google, mais on a toujours eu dans l'histoire de Fairphone un OS alternatif disponible. Soit on le faisait nous-mêmes, soit on a laissé la place à d'autres. Tout à l'heure, Gaël, tu mentionnais le partnership qu'on avait. Effectivement, aujourd'hui, vous pouvez acheter un Fairphone 3 avec i préinstallé. Et c'est très bien, mais pour la plupart des utilisateurs et utilisatrices finaux, aujourd'hui, on a fait le choix de rester sur un stock Android. Ce qu'on appelle un stock Android, c'est un Android certifié, un Android classique, quoi, parce qu'on ne veut pas se couper de cette masse d'utilisateurs et utilisatrices qui sont parfois réticents à avoir une version alternative d'un OS. Donc, on propose les deux alternatives. Et pour pouvoir avoir un Android qui dure dans le temps, certifié, il faut passer ces fameuses certifications dont je parlais tout à l'heure. Et c'est compliqué parce que personne dans l'industrie n'est là pour pouvoir faire en sorte que ce soit facilité. Et encore une fois, je reviens au but premier de Fairphone. Le but premier de Fairphone, c'est pas de faire un super Fairphone. Même le fondateur de Fairphone, qui s'appelle Baz Van Abel, dit souvent que si Fairphone n'existe pas dans 10 ans, on s'en fout, quoi. L'objectif, c'est qu'on ait eu un impact dans l'industrie. D'où l'importance aussi de continuer à faire des upgrades du stock Android, donc d'arriver à convaincre. Enfin, moi, j'ai passé les 15 derniers jours au milieu des process d'exception de Google. Je vous garantis que ce n'est pas très drôle. Mais si ça peut participer à soit aider d'autres fabricants de téléphones, soit à convaincre Google qu'il faut faire quelque chose, ça serait bien. Et je ne parle même pas de Qualcomm.
D'accord.
Qualcomm, c'est encore une autre opacité, parce que Qualcomm, sur Google, on est sur de l'AOSP, enfin de l'Android, dont une partie est open source, etc. Qualcomm, il y a des choses qui sont publiées, mais qui ne sont pas. Et donc là, c'est pareil. Tout ce qu'on peut faire pour convaincre les fabricants de puces pour fournir un support logiciel long terme, on pense que ça vaut le coup pour les autres acteurs autour de nous.
Ok, je vais relayer une question sur IRC qui va compléter une des miennes. La mienne, c'est combien ça coûte aujourd'hui un Fairphone ? Et la question qui est, comment Fairphone a pu baisser le prix de ses téléphones s'il y a une démarche équitable ?
Ouais, alors on n'a pas vraiment baissé. Enfin, on baisse le prix de nos téléphones quand qui commence à prendre un peu d'âge, parce que de toute façon, plus on s'écarte, genre acheter une barre de chocolat équitable, on paye 2 euros de plus, mais on ne se rend pas bien compte que c'est potentiellement 30% plus cher parce que c'est que 2 euros de plus ou 1,50 euro. Alors qu'acheter un téléphone, oui, équitable, oui, c'est plus cher, mais ça se sent vite quand on passe la barre des 30 ou 40%. Donc, quand votre téléphone il vieillit, si on veut faire en sorte que les gens continuent de l'acheter, il faut qu'on s'aligne un peu sur les politiques tarifaires. Donc, le Fairphone 3 était sorti donc, il y a 2 ans. Fairphone 3 Plus est sorti il y a un an et demi, et on était sur des prix à plus de 400 euros, plutôt 450. Là, le Fairphone 3 était tombé depuis quelques mois à 370, 380. Voilà. Et c'était, à mon avis, un bon choix. Moi, je ne suis pas du tout dans le pricing, dans tout ce qui est fixation de prix, mais je pense que c'était une bonne chose pour arriver à convaincre les gens d'acheter Fairphone. Et le dernier né, donc tout à l'heure tu l'as mentionné, j'en ai même pas encore parlé moi-même, le Fairphone 4, il est à 579 sur la version la plus petite, donc avec 128 Go et 6 Go, et à 649 avec une version un peu plus forte. Donc là, on est sur des prix moyenne gamme, on n'est pas sur du bas de gamme téléphone. Ça, vous pouvez pas comparer aujourd'hui si l'objectif c'est on sera jamais sur des prix d'entrée à 200 euros. Vu ce qu'on fait, c'est pas vraiment possible. On a essayé d'augmenter un peu la qualité technique du Fairphone 4 pour arriver plus dans les premiums, mais on sera jamais sur des téléphones d'entrée de gamme à 200 euros.
Ouais, et comme tu l'as dit, de toute façon, c'est des téléphones qui vont durer, donc on va pas en changer tout le temps. Moi, j'ai Jean-Christophe Becquet qui est intervenu tout à l'heure dans sa chronique, un Fairphone 2. Moi, j'ai un Fairphone 3 et on en est très très content.
C'est cool d'entendre qu'il y a des gens qui font qu'il y a encore un Fairphone 2, parce que c'était mon job pendant longtemps. Je me dis, c'est cool. Non, mais on a encore 40 000 utilisateurs. Hein.
Exactement, il en a encore un et voilà, il en est très content. Ouais. Alors, je regarde ce que le temps file très vite et pour pas oublier les questions. Ah si, tout à l'heure, il y a une question. Oui, et puis par rapport au prix, comme le disait tout à l'heure Gaël, il y a aussi la possibilité d'installer des OS comme iOS sur des téléphones reconditionnés. Et je précise d'ailleurs juste juste que quand tu dis iOS, Gaël, sur le salon web, il y a un encouragement à changer de nom parce qu'on pourrait confondre avec iOS d'Apple. Donc effectivement, on vous encourage à trouver un autre nom, même si je connais un peu l'historique effectivement de ce choix-là. Par contre, voilà, j'ai une question que je relaie sur les applications qui ne vont pas passer sur i versus Android, et notamment la question des applications bancaires. Est-ce que quelqu'un qui va installer, alors ça peut aussi valoir d'ailleurs sur le Fairphone la question, mais sur i, est-ce qu'il va pouvoir, la personne va pouvoir utiliser ces applications bancaires notamment?
Oui, alors ça c'est une super bonne question. Ça fait partie des points qu'on doit améliorer. Aujourd'hui, certaines banques ont commencé à prendre des mauvaises habitudes qui consistent un peu à sous-traiter la sécurité de leurs applications mobiles à Google.
Ouais.
C'est-à-dire que grosso modo, sur un certain nombre d'aspects, Google fournit des outils qui prétendument leur donnent plus de garanties que le truc va être sécurisé, et en particulier il y a une partie qui s'appelle SafetyNet, alors on rentre un peu dans les détails, mais en gros que l'application mobile peut interroger pour savoir s'il n'est pas en train de tourner sur un smartphone qui ne serait pas un smartphone officiel Google avec le tampon, etc. Donc, pour résumer, Google ne nous facilite pas la vie sur un certain nombre de sujets. Et en particulier sur les applications bancaires, donc qui sont des applis quand même un petit peu sensibles, hein, par rapport à la sécurité, il y a des applications bancaires qui vont refuser de tourner sur iOS. Donc aujourd'hui c'est la situation qu'on connaît, donc c'est pas toutes les applications bancaires, personnellement celle perso et celle professionnelle elles tournent parfaitement, mais il y a d'autres banques où ça tourne pas, où ça tourne parfois de manière un petit peu bancale. Cela dit, sur ces sujets là on est en train de travailler, ça fait un petit moment déjà qu'on y travaille, et on travaille avec la personne qui s'occupe de la couche de compatibilité avec les services Google Play, qui est un Allemand et qui fait un truc super depuis 5-6 ans qui s'appelle MicroG. Et je pense qu'on pourra bientôt annoncer des bonnes nouvelles à ce sujet-là.
Ah bah c'est super, d'ailleurs je précise que sur mon Fairphone, en fait, il n'y a pas Fairphone OS, il y a Lineage OS MicroG. Comme quoi on peut mixer le meilleur de toutes les solutions. Alors je précise qu'il va nous rester à peu près une dizaine de minutes, voilà, comme ça vous le savez. Alors je vérifie quand même s'il y a des aujourd'hui il y a pas mal de questions sur le salon web. Il y a des questions sur l'argent, on va le faire tout de suite, même si c'était l'un des points finaux, le modèle de financement. Donc rapidement, le modèle de financement de i et du Fairphone. On va commencer par Gaël, comme tu avais la parole, tu peux continuer. Votre modèle de financement, votre chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires. On nous demande carrément les détails. Et vous répondez ce que vous voulez.
Oui, carrément.
Au moins le modèle de financement.
Alors c'est un mix en fait. On est parti sur moi j'ai commencé par un Kickstarter fin 2017. Un Kickstarter, c'est une campagne de financement participatif. Hein. C'était à la fois pour trouver de l'argent pour amorcer le projet et puis aussi pour tester l'idée. Qui a super bien marché. Après, clairement, ça suffisait pas, mais on a deux entités. On a une entité qui est une association, donc qui est le cœur du projet, qui fait que voilà, qui donne la garantie que le cœur du projet soit impossible à racheter. Et ça, donc cette entité-là vit avec des dons. Qui est récurrent, hein. On a plusieurs systèmes, des gens qui donnent, soit qui font des virements, soit ils passent par Patreon, soit par, enfin il y a toutes sortes de trucs. Et donc on a un petit budget qui nous permet de payer des serveurs, qui nous permet de payer deux ou trois salaires, donc c'est quand même intéressant. Et à côté on a une entité qui est dédiée à la commercialisation des téléphones et des services en ligne premium, parce qu'on vend aussi des services en ligne basés sur Nextcloud qui sont synchronisés avec iOS.
Expliquez rapidement ce qu'est Nextcloud pour les personnes,
oui,
qui ne savent pas.
Alors Nextcloud, c'est comme Google Docs ou comme Microsoft 365 pour donner une image. Je pense qu'il va parler à beaucoup de monde. C'est un service en ligne qui permet de retrouver ses données, de stocker ses photos, d'éditer des documents, d'avoir ses mails, de retrouver ses mails. Voilà. Et donc ça, aujourd'hui, on opère ça pour 35 000 comptes utilisateurs. Et c'est synchronisé avec l'OS, c'est-à-dire que vos mails sur iOS, vous allez les retrouver si vous vous connectez dans votre espace web, et vous allez retrouver vos photos, vos documents, vos vidéos, etc. Et donc, on a du stockage gratuit jusqu'à 5 gigas. Et si on veut plus, on peut prendre un plan premium, donc payant, parce que évidemment tout a un prix, y compris la location des serveurs. Et par ailleurs, on vend aussi des téléphones, comme on en a déjà un petit peu parlé. Et donc, on vend des smartphones sur du reconditionné avec Fairphone, etc. Et donc, bah, l'ensemble fait qu'on a, on a des revenus qui sont en croissance relativement forte, puisque l'année dernière on a fait plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, et on fera probablement on est bien parti pour faire le double cette année. Donc ça nous permet de nous financer partiellement, puisque évidemment je vais l'apprendre à personne, mais on est aussi dans une phase d'investissement, donc il faut aussi embaucher beaucoup de monde pour travailler sur les produits, pour les faire connaître, etc. Donc on a aussi levé des fonds sur la partie dédiée au commerce, donc des téléphones et des services en ligne, donc avec des investisseurs privés aujourd'hui. Voilà, donc le financement pour nous c'est un très grand mix qui a comme objectif de rendre le truc pérenne et de fournir le meilleur produit. Et je tiens à préciser quand même que tout ce qu'on fait, c'est du logiciel libre, et donc on le propose aussi gratuitement pour ceux qui le souhaitent. C'est sur nos serveurs avec tout le code source qui va avec.
Ok, merci Gaël. Bah, écoute, même question Agnès, et après on va s'approcher de la fin de l'émission, donc sur le modèle économique de Fairphone.
Ouais, donc on est aussi parti par une campagne de crowdfunding à l'origine, on a fait 2 en 8 ans. On a aussi des investisseurs, pas beaucoup, hein. L'objectif de Fairphone, c'est d'avoir peu d'investisseurs et plutôt de faire du prêt bancaire pour garder un peu le contrôle, parce que vu ce qu'on fait, on se dit que si on fait trop rentrer d'investisseurs, ça peut être toujours compliqué après pour garder le contrôle sur des choses comme le travail sur les minerais, etc. Mais on en a quelques-uns. Évidemment que notre objectif aussi, c'est d'être rentable en vendant nos propres téléphones, des Fairphone 3... sur 2020, on en a vendu un peu plus de 100 000, donc ça aide à être à l'équilibre. 2020, c'est la première année de notre vie. En 8 ans, on était à l'équilibre financier, donc c'est plutôt cool. On est sur un chiffre d'affaires de 36 millions à peu près, un petit peu moins de 36 millions. Donc c'est encore un petit chiffre d'affaires par rapport aux autres, quoi. Mais en tout cas, c'est la première année qu'on est rentable depuis 2013. Donc voilà, on s'est accroché, on est toujours là. Et notre objectif, c'est vraiment que l'argent qu'on a, les marges qu'on a sur notre téléphone nous permettent de vivre. On publie notre cost breakdown. Le cost breakdown, c'est où c'est que passe l'argent quand vous mettez 500 euros dans un Fairphone, où c'est que l'argent passe. Donc ça, c'est publié sur Fairphone 2, Fairphone 3, on l'avait publié, Fairphone 1 aussi d'ailleurs. Donc on vous dit qu'on passe tant de pourcentage sur la fabrication du produit, tant de pourcentage sur les coûts de logistique, tant de pourcentage... Et sur le Fairphone 2, de mémoire, sur 549 euros, il était sorti à 549 euros, il y avait 9 euros qui était notre marge. Et je pense que j'ai beaucoup de questions parfois de journalistes qui me disent « Mais alors c'est quoi par rapport à Apple ?» Évidemment qu'Apple ne va jamais fournir ce genre de chiffres, hein. Demander à Apple quelle est sa marge sur leur téléphone, ils ne vont pas vous répondre, mais je peux vous promettre que ce n'est pas 9 euros, pas que ce n'est pas, que c'est pas moins de 8%. Quoi. Voilà.
Ok, d'accord. Avant-dernière question, je précise aux gens qui sont sur le centre web que je ne peux pas prendre toutes les questions, parce que sinon on va dépasser leur prévu, mais que j'enverrai les questions non posées à nos invités qui nous ils auront la gentillesse de nous répondre par courriel. Voilà. Donc, avant-dernière question, il y a une question quand même qui est et alors rapidement la réponse, si vous avez une idée, que peuvent faire les pouvoirs publics aujourd'hui, que ce soit sur la partie logicielle ou sur la partie matérielle, en France ou en Europe? Est-ce que vous avez une demande particulière, par exemple, ou une idée? On va commencer par Gaël.
Alors ça, c'est une très grande question. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ne s'intéressent pas beaucoup, malheureusement, et c'est pas nouveau, hein, au logiciel libre. Et moi, je regrette vraiment de voir s'afficher en permanence certains ministres ou avec les GAFA, comme si c'était cool. Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet-là, mais il y a quand même quelques petites lueurs d'optimisme, puisque notamment au niveau de l'Europe et de l'Union européenne, il y a quand même aujourd'hui ce sujet de l'indépendance technologique dans bien des domaines, y compris dans le numérique, qui est sur la table et qui est en train de remonter fortement et à grande vitesse dans les dossiers. Et on a aussi la question de la régulation, et là on a pu voir quand même depuis quelques années il y a eu quand même un certain nombre de procédures qui ont été lancées, d'enquêtes, etc., et parfois suivies d'amendes assez importantes. Et je pense qu'on est qu'au début, puisqu'il y a encore des procédures qui viennent de s'ouvrir sur notamment abus de position dominante, etc. Donc voilà, je reste plutôt optimiste, mais régulièrement déçu par nos pouvoirs publics, en particulier français, hein, sur ces sujets.
D'accord. Agnès, en quelques mots.
Ouais, c'est compliqué comme sujet. Non, je veux pas.
Non, mais si t'as pas de réponse en tête, pas de souci.
Non, après, il y a des. Moi, je trouve qu'il y a quand même des choses au niveau le mouvement Right to Repair, ce genre de choses. Donc,
le droit à la réparation.
De logiciel. Ouais, droit à la réparation, c'est principalement lancé sur. L'Angleterre, mais c'est allé aussi ailleurs et ça fait, je pense, beaucoup d'impact au niveau de la Commission européenne. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, pousser les. Alors, on dépasse la mobilité, hein, mais principalement, ça touchait aussi des fabricants d'appareils électroniques. Pousser ces fabricants-là à faire des appareils qui durent et à être réparés, ça, je trouve ça pas mal.
D'accord. Et je précise juste que pour les gens qui sont en France, il y a bientôt au Sénat le projet de loi, alors de mémoire, c'est l'empreinte environnementale de l'informatique et du numérique qui arrive en seconde lecture. Donc, s'il y a des gens qui veulent se mobiliser auprès des sénateurs et sénatrices, n'hésitez pas. Alors, on arrive au bout de ce sujet, mais on en reparlera, je pense, dans une autre émission. Donc, avec ma dernière question, enfin mes deux dernières questions, si vous avez des besoins, des annonces à faire, et puis surtout la question finale, en moins de 2 minutes pour conclure, quels sont les éléments clés que vous souhaiteriez que les auditeurs et auditrices retiennent de cette émission ? On va commencer par Gaël, on laissera la mot de la fin à Agnès. Gaël.
Alors, en combien de temps ?
Moins de 2 minutes.
moins de 2 minutes.
C'est pour ça que j'avais envoyé avant.
Éléments clés. Ouais, non, ouais, c'est vrai en plus. je pense que ce qui est le plus important, enfin moi à mon sens, c'est que c'est important de parler de ces sujets, c'est important d'en parler autour de soi, c'est important de se renseigner. Qu'est-ce qui se passe dans le smartphone ? Aussi bien dans la partie logicielle, quels sont les modèles d'affaires qui vont autour, qu'est-ce qui finance le smartphone, le système d'exploitation, où vont les flux marchands aussi, hein, est-ce que ça reste en, est-ce que ça profite à notre collectivité, à nos communs, ou est-ce que ça part dans d'autres boîtes à l'étranger. Et puis au niveau matériel, évidemment, avec le sujet de l'obsolescence programmée, du fait que, à mon sens, moi, il n'y a pas vraiment de bonne raison qu'un smartphone ça ne puisse s'utiliser que pendant 2 ans. Donc faire des téléphones dans lesquels on puisse changer la batterie, dans lesquels on puisse réparer, ça me semble super important. Faire en sorte que les téléphones puissent avoir une deuxième vie, une troisième vie, ça me semble aussi assez important, qu'ils puissent être maintenus dans la durée. Hein. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est vraiment, il faut en parler, il faut que les médias en parlent, il faut que les pouvoirs publics, les politiques s'emparent de ces questions-là, parce que aujourd'hui, c'est des questions qui sont sous-estimées parce que c'est du soft et que malheureusement, c'est souvent aussi très complexe. Mais les impacts derrière, ils sont colossaux en termes de société, économique, environnement, développement durable, etc.
Merci Gaël. Agnès ?
Ouais, moi je serais très courte. Je pense que, ouais, essayez de plus changer vos téléphones, de plus changer, en tout cas de les changer beaucoup moins souvent. Je veux dire, c'est aussi, tout n'est pas rejeté sur la responsabilité des personnes utilisatrices, mais vraiment on a à s'interroger là-dessus, penser aux personnes qui fabriquent ça. Acheter un Fairphone si jamais vous voulez, mais la meilleure des choses, c'est de garder votre téléphone que vous avez déjà et essayer de prolonger sa durée de vie. Ça, c'est clé. Voilà.
Mais écoutez, merci à vous deux et je me joins au remerciement que je vois sur le salon web. Je cite le dernier aux 2 personnes qui sont intervenues pour leur absence de langue de bois et pour leur qualité d'intervention. Alors j'ai bien conscience que vous aviez, les gens sur le salon, plein d'autres questions. Mais on réinvitera Agnès et Gaël peut-être, si possible, sur place. Ah, il y a un petit remerciement personnel à Gaël pour Mandrake, qui est devenu son système d'exploitation principal depuis le début des années 2000. Donc c'est Tux Seb qui nous dit ça sur le salon web. Effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent des versions dérivées ou peut-être encore des versions de Mandrake sur un ordinateur. Donc en tout cas, merci à tous les deux. Je vais répondre à la question au quiz avant de passer à la pause musicale. Est-ce que vous aviez une idée d'ailleurs de la réponse ? Je vais redonner la question. Quel est le nom de la personne considérée comme ayant écrit le premier programme informatique ? Est-ce qu'Agnès ou Gaël, vous aviez une idée de la réponse ? Je suis désolé pour la question piège.
Je pense que c'est Ada Lovelace. Mais...
Exactement, non, la réponse. Agnès, c'est Ada Lovelace, de son nom complet Augusta Ada King, qui est une pionnière de la science informatique. Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier véritable programme informatique lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique de Charles Babbage. Et pourquoi je posais cette question aujourd'hui ? Tout simplement parce que ce mardi, c'est le Ada Lovelace Day, une initiative lancée en 2009 qui vise à présenter les réussites de femmes actives dans le domaine technologique ou scientifique afin d'augmenter la visibilité de modèles positifs féminins. Et c'est un grand plaisir d'avoir Agnès, qui est évidemment un modèle à suivre et qui, en plus, par différentes actions associatives, participe au développement effectivement de féminin dans l'informatique, notamment je pense à Duchesse France. J'avais l'occasion d'ailleurs d'inviter il y a quelques mois Katia Aresti, qui je crois fait aussi partie de Duchesse France. Donc voilà, c'était un grand plaisir de vous avoir tous les deux. J'espère vous voir bientôt un jour sur place au studio pour compléter cette émission. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.
Merci Frédéric.
À bientôt.
Merci pour l'invitation. Au revoir.
On va faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale, nous parlerons avec Isabelle Carrère de l'écrasement de données sur disque dur. Oh, ça fait peur un peu ça, hein. Mais avant ça, une petite pépite trouvée toujours sur auboutdufil.com. Keys of Moon est le pseudo de l'artiste russe Sergio Delua, qui compose essentiellement au piano et ses musiques sont toujours instrumentales. Sans texte, un artiste n'a plus que la musique pour transmettre un message ou communiquer une émotion à l'auditeur et à l'auditrice. Sergio Delua l'a bien compris, en jouant avec le rythme et l'intensité du morceau, il parvient à créer des musiques expressives et chargées d'émotions. Nous allons écouter The Epic Hero par Keys of Moon. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter The Epic Hero par Keys of Moon, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Que libérer d'autre que du logiciel ? La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le recondissement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Le sujet du jour, l'écrasement des données sur les disques durs. Bonjour Isabelle.
Bonjour Fred. Bonjour à tous et toutes.
Vous écrasez des données, c'est ça ?
Ah bah alors justement, c'est un vrai problème. Mais tu vois, je suis contente parce que ce qu'on vient d'entendre là avec tes invités précédents, je suis sur la droite ligne. Je suis pas trop décalée puisque donc vous parliez de droit à la réparation. Et qui dit droit à la réparation dit aussi, à l'intérieur, on devrait pouvoir parler de droit à la réutilisation. Et alors pourquoi on parle là de la question de l'écrasement des données et pourquoi on utilise ce terme ? Bon, tout le monde sait bien que quand on veut simplement se débarrasser d'informations sur son disque, ça suffit pas tout à fait de le mettre à la corbeille et de vider la corbeille. Évidemment, les données restent là. Et en fait, on n'efface jamais un disque dur. On n'efface pas des données. La seule façon de faire quelque chose, enfin en fait, il y a quatre façons. Soit on écrase effectivement, et écraser des données, ça veut dire qu'on va réécrire sur tous les secteurs d'un disque dur, et on écrase avec des outils qui sont faits pour ça. Nous en avons certains, des outils libres, mais qui n'ont absolument pas de certificat. C'est-à-dire que on fait des passes, plusieurs passes d'écriture de 1, 0, 0, 1 de manière aléatoire. La logique veut qu'on en fasse 3 à minima. 7 quand c'est vraiment des choses un peu lourdes ou des données archi-confidentielles, etc. Mais tout ceci sans certificat. Les autres façons de faire sont, ce que nous voyons, c'est des gens qui font de la destruction physique ou du déchiquetage. Donc là, ça veut dire qu'on détruit le matériel, on détruit les disques durs. Plusieurs entreprises nous proposent à Antanac de nous donner des ordinateurs, mais sans disques durs, parce qu'ils disent « Ah ben non, 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 nous les donner, on n'a pas le temps de s'en occuper, on ne veut pas vous les donner, donc on va détruire physiquement nos disques durs. » Ce qui n'est pas génial pour la réutilisation, parce qu'après, il faut en trouver d'autres, des disques durs à mettre dessus, et qui, donc, pousse là aussi, ça favorise la production, surproduction permanente de nouveaux matériels, l'extraction qu'il faut, etc., pour le faire. L'autre façon de faire, c'est du formatage, mais là, c'est pareil, le formatage, on sait qu'en fait, on cache les données quand on formate, on ne les écrase pas vraiment. Ou bien, il y a aussi un procédé de démagnétisation qui demande un matériel un peu plus sophistiqué, que nous n'avons pas en Tanac, et qui, en plus, fonctionne pour les disques durs, mais pas pour les SSD, qu'on commence à retrouver quand même de plus souvent dans les ordinateurs.
Alors, on va préciser que les SSD, ce sont des disques durs, des technologies récentes, beaucoup plus rapides, mais aussi beaucoup plus fragiles.
Voilà. Beaucoup plus fragiles, beaucoup plus petits, et du coup, la question, elle est encore plus compliquée pour cette question d'effacement des données. Donc, du coup... on s'est posé, ça fait un petit moment qu'on se pose cette question-là, puisque des entreprises à chaque fois nous demandent d'effacer leurs données. Certaines entreprises nous donnent du matériel et font elles-mêmes le travail d'effacer, d'écraser, de purger, chacun dit avec les termes qu'il a, les données que les disques durs contiennent. Et en fait, on s'est amusé plusieurs fois, nous, à faire un petit test avec des outils spécifiques. On a fait un test sur des disques durs qui nous étaient donnés pour être sûr que les gens avaient réellement fait le travail. Eh bien, en fait, très souvent, on retrouve des fichiers. C'est-à-dire que même des DSI dans des entreprises qui pensent avoir
direction
fait...
informatique.
Oui, les directions des systèmes d'information ou directions des services informatiques pensent avoir fait le travail, bah, parfois, c'est pas complet. Donc, nous, c'est pour ça qu'on le refait de toute façon, mais du coup, on a regardé ça. Et par contre, quand nous, on utilise notre petit outil donc de Eraser Disk qu'on a dans la pochette, là, la boîte à outils UBCD, on constate que on a beau aller chercher, on n'arrive pas à retrouver les fichiers en question. Donc ce qu'on fait, eh bien, fait. Mais quand on a une entreprise qui nous dit ok, très bien, je vous fais confiance, ça marche très bien, nous on établit un certificat, on garantit qu'on le fait et on le fait. Mais si une entreprise nous dit moi j'ai besoin d'un certificat, j'ai besoin de quelque chose dans lequel vous m'apportez une preuve matérielle ou en tout cas une preuve certifiante, ben là on n'a pas. Les seuls outils sur le marché entre guillemets qui donnent une certification de ce type là sont des outils privateurs, propriétaires, tels que Blanco par exemple, UR-Cube qui fait aussi un partenariat avec Blanco, et ceux là on va pas les utiliser, ce ne sont pas des outils libres et en plus ils sont hyper chers, c'est payant, donc tu payes à la fois une licence et après tu payes à chaque fois que tu passes un disque dur dans la machine, tu repayes quelque chose. Donc il n'en est pas question. Et donc on est fort embêté. Et donc ma chronique d'aujourd'hui, elle avait pour but à la fois de sensibiliser sur ce sujet-là et en même temps de faire une espèce d'appel. Parce que quand on a voulu se préoccuper de ce sujet-là, on s'est dit, bon alors voyons, vers qui on pourrait se tourner et quelle serait la bonne façon de faire. Donc on s'est dit, comme les produits en question, par définition, appartiennent à tout le monde, n'est-ce pas? Parce que c'est des communautés de libristes qui les ont mis en place. Donc, comment pourrait-on faire pour que tout le monde obtienne une certification? Qu'est-ce que ça signifierait dans le monde du libre que d'obtenir une certification? On s'est aperçu qu'en fait, il y avait quand même des logiciels libres qui obtenaient des certificats, en tout cas de résultats ou de sécurité ou de choses comme ça. On s'est dit, on va s'adresser à l'ANSSI.
L'Agence nationale de sécurité.
J'allais le dire, j'avais prévu de le dire, parce que je savais. Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc on s'est dit, on va leur poser la question, tout bêtement. On est des citoyens, des citoyennes, on va poser la question. Et donc en novembre, on écrit un petit courriel à l'ANSSI. Bonjour, petite association du 18e arrondissement de Paris. Nous menons entre autres des activités de reconditionnement de matériel informatique pour soutenir solidairement la réappropriation numérique et contribuer à la baisse des D3E via la réutilisation. On leur explique notre affaire, on est confronté à cette question de l'effacement des données, et donc en fait voilà ce qu'on fait, on les écrase, mais on n'a pas de certificat. Qu'est-ce que vous en pensez? On vient vers vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position sur le sujet? On n'a rien trouvé sur le site, parce qu'on a vraiment essayé de trôner partout dans leur site qui est assez complet, il y a énormément de choses, mais rien sur la question de l'écrasement des données. Et donc, on voulait avoir des informations. On a envoyé ça à 3 adresses courriels différentes qu'on avait trouvées. Et on a mis un petit mouchard, là. Et donc, une des personnes a lu le mail et immédiatement l'a supprimé. On s'est dit, bon, c'est pas elle qui va nous répondre. Une autre a lu le mail, puis... silence, on n'a rien eu. Et l'autre, on ne sait pas, il n'est toujours pas ouvert, il ne devait plus être là. Bon. À part le côté amusant de la chose, c'est qu'on se retrouve vraiment avec un vrai problème. Une entreprise là nous dit, voilà, j'ai 100 ordinateurs portables pour vous, mais c'est à vous de faire le boulot. C'est énorme, ils ne se rendent pas compte en fait. Ou alors si, ils se rendent compte, mais ils ne veulent pas le payer, le faire, payer la main d'œuvre entre guillemets pour le faire, ou ils ne s'en sentent pas les compétences techniques, j'en sais rien. Mais ça nous pose vraiment des soucis. On s'est dit que peut-être les CESTI, du coup, les centres... Alors ça, je ne sais plus par contre, quel est le site du CESTI.
Francis, qu'elle me regarde. Je ne sais pas du tout ce que sont les CESTI.
Les CESTI, en fait, ce sont les centres qui sont agréés par l'ANSSI, par les gouvernements, etc., pour faire ces évaluations de logiciels ou d'équipements. Équipement réseau aussi. Par exemple, on a une structure comme OPIDA ou une autre qui s'appelle Amosis. Enfin bref, on a les CESTI, c'est des centres qui font ça, qui font en fait les évaluations, qui sont censés être. Tu l'as ?
Centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information.
Voilà. Donc on s'est dit peut-être vers eux, on peut aller voir et leur dire ben voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que ça existe ? Quelle serait la procédure ? Est-ce qu'il y aurait une façon de le faire ? Donc aujourd'hui, ma chronique, en fait, elle a pour but d'appeler là, les auditrices, les membres de l'April, de la foule, que sais-je, enfin, tous les gens qui sont autour de ces sujets-là et qui pourraient être intéressés pour nous aider à monter, je ne sais pas, un groupe de travail, à faire quelque chose là-dessus pour arriver à un résultat. On doit, là aussi, à mon avis, saisir les pouvoirs publics sur ce genre de choses, parce qu'on ne peut pas parler de réemploi, de réutilisation, si on continue à laisser les entreprises scratcher complètement leur disque dur sans avoir de possibilité de les réutiliser correctement. Voilà, c'est un appel.
Bah écoute, c'est un appel qui est lancé. J'espère que des auditrices ou auditeurs pourront y répondre. Nous, peut-être à notre petit niveau, ce que je peux te proposer, c'est de nous transférer ton courriel qu'on va envoyer au directeur de l'ANSSI, vu que le directeur de l'ANSSI est venu dans l'émission, donc on a son adresse. Et puis, c'est quelqu'un de tout à fait sympathique qui saura peut-être le réorienter en inter-ANSSI. Par contre, je ne mettrai pas de mouchard pour savoir si le directeur de l'ANSSI a lu le courriel. Et effectivement, les gens qui n'ont jamais fait d'écrasement de données peuvent peut-être penser que c'est très très facile, mais en fait, c'est très long, parce que, enfin, en fonction des outils qu'on utilise, ça peut être très long, notamment il peut y avoir plusieurs phases, et donc ça demande de la ressource humaine aussi.
Alors, ça demande de la ressource humaine pour lancer le processus. Après, c'est ça tourne tout seul. C'est long, pourquoi ? Bah parce que selon que ton disque dur, il a 160 gigas ou 1 tera, bah oui, ça peut durer plusieurs heures. Et donc, du coup, quand on a 100, c'est quand même toute une affaire. Il faut avoir une table énorme avec plein de... Tu lances toutes tes petites clés USB sur tous tes portables, c'est très long. Mais ça, à la limite, on veut bien le faire, c'est pas la question. C'est que donc, si derrière, l'entreprise dit « et je veux avoir la preuve que... » Bah, qu'est-ce que je fais ?
D'accord. Bah écoute, appel lancé, transmets-moi le courriel, je l'enverrai au directeur
bien,
de l'ANSSI, sans garantie de résultat, mais au moins j'enverrai le courriel. Donc c'était la chronique d'Antanac par Isabelle Carrère sur l'écrasement des données sur les disques durs. Eh bien, bonne fin de journée Isabelle, et au mois prochain.
Merci beaucoup.
Alors, on approche de la fin de l'émission, on va terminer rapidement par quelques annonces. Alors, dans les annonces d'événements, il y a le B-Boost. C'est rendez-vous les 14 et 15 octobre 2021 à l'espace Ancan de La Rochelle. Plus de 30 conférences seront proposées autour de la thématique de la souveraineté numérique, de la résilience, du bien commun numérique, de la cybersécurité, du numérique responsable, de la scalabilité, de la donnée numérique. L'espace exposition réunira une quarantaine d'exposants allant de start-up innovantes aux entreprises industrielles installées en passant par des associations de collectivités. Je précise que je lis le site. Et le site, c'est b-boost.fr, donc 14 et 15 octobre 2021. Donc, c'est à La Rochelle. Du côté de Quimper, il y a l'exposition Partage et solidarité dans le numérique, qu'on appelle, l'exposition s'appelle Les Ordi Libres. Donc c'est là, à Quimper, à l'espace associatif, la maison Valdec-Rousseau. Donc c'est tout le mois d'octobre, il y a cette exposition qui est affichée. Et il y a également deux animations qui sont prévues. L'une le 13 octobre, une association peut-elle se passer des GAFAM, et un atelier pratique le 23 octobre, tester des logiciels libres utiles à une association. Vous retrouverez les détails sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Jean-Christophe Becquet, Agnès Crépet, Gaël Duval, Isabelle Carrère. Cette émission est rendue possible grâce à une équipe en or, et notamment pour cette édition, merci à Isabella Vanni qui était aux manettes de la régie. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Langue 1, bénévole à l'April, Olivier Griécou, le directeur de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues par courriel, et vous pouvez aussi découvrir le site dédié à l'émission qui est en phase de préouverture. Je pense que l'ouverture officielle arrivera bientôt. Le site, c'est libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire également connaître la radio, la Cause Commune, la Voix des Possibles, sur laquelle il y a plein d'émissions super chouettes, avec notamment des animatrices super chouettes, dont Isabelle. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 19 octobre 2021 à 15h30. Je ne connais pas encore notre sujet principal, vous le découvrirez. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 19 octobre à 15h30 ou en podcast quand vous voulez, et d'ici là, portez-vous bien.
À Paris, 93.1 en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Cause commune à Paris, 93.1 en FM sur le bloc 9A du DAB+ et partout ailleurs, causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune.
Des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait, comme sans doute, absolument certaine.